Alors, bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Pascal Robert, qui est donc professeur des universités dans la 71e section pour un livre qu'il a publié il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Temporalité numérique, la dynamique des technologies de l'information et de la communication du 19e au 20e siècle, enfin aux 2 siècles. Et qui est donc à la fois produit sous une forme papier, hein, à la demande, mais également accessible donc librement en ligne. Et il s'agit donc du tome 1. Alors peut-être qu'on peut commencer, si tu veux bien, pour revenir un peu sur la genèse, la création et la réalité de ce livre, puisqu'il s'agit donc d'un livre assez étrange d'une certaine façon, puisque c'est un livre que tu as écrit il y a 25 ans, enfin 27 ans, et qui en fait ne connaît son existence qu'aujourd'hui. Alors est-ce que tu veux expliquer un peu ce décalage temporel?
Ce décalage temporel, il n'est pas de mon fait. Alors c'est vrai que j'ai écrit ce livre il y a plus de 25 ans, c'était en 95-96, et en fait je l'ai proposé à un certain nombre d'éditeurs qui ne l'ont pas accepté. J'en ai été assez surpris et chagriné parce que je pensais à l'époque, c'était quand même une synthèse assez intéressante, assez novatrice, qui est une synthèse pluridisciplinaire. Il y a de l'histoire, il y a de l'économie, il y a de la gestion, il y a du droit, il y a de la science politique, il y a science de l'information, de la communication et de la sociologie des techniques. Alors, je pratiquais un certain nombre de ces disciplines, ceci explique cela. Et ça me semblait intéressant de prendre tous ces fils-là et puis de les nouer autour de la question de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, mais qu'on appelait encore bon, l'informatique au sens large, l'informatisation de la société, on va dire. Et de réfléchir au fond. Dans une perspective historique, je disais historique et pas historienne tout à l'heure, c'est pas par hasard, au développement de ces technologies sur 2 siècles. Voilà, il n'y avait pas véritablement d'équivalent. Il y avait des livres très intéressants, celui de Fritschi, celui de Catherine Berthaud, etc. Donc, sur des questions qui se rapprochent de ce que je traite, il y avait celui de Pascal Griset aussi, qui était tout à fait formidable, mais il n'y avait pas de logique de modélisation, me semble-t-il, dans ces livres. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Ce qui me semblait intéressant, et c'était à mon sens la valeur ajoutée de ce type d'ouvrage, c'est d'essayer de réfléchir à une forme de modélisation du développement de ces technologies de l'information et de la communication sur ces 2 siècles. Donc, on est dans une modélisation de l'histoire. Alors, après, c'est comment les historiens peuvent recevoir ce type de réflexion. En tout cas, moi, c'est un manuscrit qui n'a pas trouvé d'éditeur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Hein. Émile Ferris, avec son livre sur les monstres, avait contacté, paraît-il, 48 éditeurs avant d'en trouver un tout petit, quelque part, aux États-Unis. Et puis, son livre, c'est devenu un best-seller mondial. Donc, j'ai encore de l'espoir.
Alors, tu as donc publié ce livre maintenant, mais en respectant exactement ce que tu avais écrit donc il y a 25 ans. Tu as rajouté une préface, une postface assez longue, qui contextualise et qui explique un peu, voilà, les idées, dans un contexte peut-être plus contemporain d'aujourd'hui, notamment pour la postface. Mais tu as choisi de rien changer. Est-ce que c'est justement un genre de miroir, un jeu face au thème que tu abordes? Parce que tu dis dans le livre que, en fait, il y a un genre de ce qu'on peut appeler le présentisme, dans le sens où tout doit être absolument contemporain, tout doit se passer aujourd'hui, maintenant, dans le présent. Et tu publies un livre sur ce concept 25 ans après. Alors, est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est un jeu? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour ne pas changer du tout le contenu?
Il y a les deux. Il y a les deux. La première chose, c'est que d'une certaine manière, je ne voulais pas tuer ce livre, ce manuscrit. Parce que si je l'avais repris et si je l'avais réécrit, il n'aurait plus été ce qu'il avait été. Or, même aujourd'hui, je veux dire, le professeur d'université qui lit pardon, ce que le doctorant a écrit, enfin non, le docteur a écrit, peut-être plus doctorant, je dis docteur, ce que le docteur a écrit. Il trouve ça pas mal en définitive, même plutôt bien, c'est pour ça qu'il est assumé. Il faut que je l'assume en même temps, 25 ans plus tard. Alors bien sûr que je l'écrirai plus comme ça aujourd'hui, mais j'assume en tirant son armature conceptuelle. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est, au fond, ce qui voilà, l'idée, c'était de respecter ce livre tel qu'il est, parce que l'armature conceptuelle en question, elle avait été pensée à ce moment-là. Et je pense que c'était intéressant de la situer encore à ce moment-là, parce qu'elle fait sens aussi dans une histoire qui est une histoire globale, et ça renvoie à ta deuxième question. Et l'histoire du numérique, c'est aussi peut-être un peu, quelque part, très marginalement, une histoire des tentatives pour en écrire l'histoire, par exemple, pour jeter une perspective historique, où c'est inévitablement à la fois l'histoire de technologie, l'histoire de la manière dont elles sont prises en main par des usages sociaux, et en même temps la manière dont elles sont racontées à un moment donné. Et ça, c'est une certaine manière de raconter cette histoire, c'est une certaine manière d'envisager la place, les enjeux de ces technologies dans notre société. Et donc, oui, il y a un jeu entre, pour moi, la nécessité de renvoyer cette manière de penser ces technologies à cette époque-là, et en même temps se dire que l'armature conceptuelle, elle peut être dépassée jusqu'à nos jours, parce qu'elle était valide et elle reste valide. Et ce que je fais dans la postface, c'est essayer de montrer non pas qu'il faut actualiser le livre, parce qu'à mon avis, ça n'avait pas l'intérêt en tant que tel, sauf à complètement réécrire, encore une fois, ce que je ne voulais pas faire. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est de montrer que cette armature, le système conceptuel, à mon sens, il est tellement pertinent que si on le transporte jusqu'à aujourd'hui, si on utilise des concepts, ils éclairent notre contemporanéité. Et ça, je trouvais que c'était intéressant par rapport au livre lui-même et à ce jeu sur les temporalités. Et ce que j'essaie de faire dans la postface, c'est montrer que justement, à partir du système conceptuel, on peut éclairer notre contemporanéité à partir du système conceptuel. Et si on peut le faire, et si le lecteur, tant soit peu connaisseur, estime que c'est valide, que ça tient la route, ça veut dire que ça valide aussi la qualité intrinsèque du système conceptuel tel qu'il avait été pensé il y a 25 ans. Donc l'opération en tant que telle, ou cet ensemble d'opérations, moi, m'intéressait intellectuellement. En plus, en effet, il y a tout un travail sur les temporalités, parce que lorsqu'on travaille sur le numérique en tant qu'enjeu sociopolitique dans notre société, moi, ce que j'essaie de montrer dans les livres, parce que ça s'insère dans une série qui comportera six livres, les livres précédents ils portent sur ce que j'appelle l'impensé informatique numérique, ce que j'essaie de montrer, au fond, c'est que le cadre global depuis les années 70 n'a pas énormément bougé. C'est-à-dire que les grandes thématiques restent les mêmes. La technologie varie, mais à chaque fois, par exemple dans les années 70, il y a la micro-informatique qui émerge, et vous avez un certain nombre de thématiques sur l'usage de la micro-informatique dans un cadre discursif, notamment les rapports, la presse, etc., rapports officiels, presse, etc. Ce qu'on vous montre dès les années 70, c'est que cette informatique, ça va être un outil clé pour mieux enseigner, pour aider à soigner les handicapés, pour améliorer le fonctionnement de la justice, pour améliorer le fonctionnement de l'aménagement du territoire, pour etc. Et donc vous avez un certain nombre de thématiques comme ça, dont on voit qu'elles sont transportées de décennie en décennie. Parce qu'après, ce n'est plus la micro-informatique, ça va être les autoroutes de l'information, vous prenez les rapports, et à quoi ça sert? Toujours la même perspective. Ça sert à aider à l'éducation, ça sert, c'est ce que disait le vice-président des États-Unis, hein. Je veux dire, on a des rapports, ils sont écrits en anglais, mais c'est quand même pas de l'anglais très sophistiqué à lire, donc il n'y a pas besoin d'être agrégé en anglais pour pouvoir les lire, et donc c'était très clair. Donc l'enseignement, hein, ça va aider à transformer, notamment parce que les États-Unis à l'époque, c'était toujours le cas, avaient quand même beaucoup de problèmes avec leur enseignement, donc c'était la baguette magique qui allait sauver leur enseignement, c'était la baguette magique qui allait sauver leur système de santé, mais c'est pareil en France. Et après, il y a eu le big data, c'est la même chose. On retrouve exactement les mêmes thématiques. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Je viens de sortir un article là-dessus, dans le dernier numéro d'études digitales. Alors, certes, il sort avec 2 années de retard à cause de la Covid, mais il n'empêche que c'est une analyse du rapport de Cédric Villani, enfin, c'est fait avec le Conseil du numérique aussi. Et quand on fait l'analyse, on retrouve, si on applique la même grille, on retrouve exactement les mêmes thématiques. Donc ça veut dire quelque part, il y a une sorte de balbutiement. qui se répète de bégaiement, pardon, pas de balbutiement, de bégaiement, qui se répète toutes les décennies et qui offre une sorte de cadre qui est à la fois un cadre qui paraît évoluer, qui nous donne l'impression qu'on réfléchit ces technologies, mais qui, lorsqu'on regarde sur 50 ans, reste le même, fait qu'on n'a pas bougé de place intellectuellement. C'est pour ça que j'appelle ça l'impensé. C'est parce que, d'une certaine manière, on n'a pas évolué. Et on est toujours à la remorque des technologies. Parce que c'est toujours une sorte de déterminisme technique, dans le sens où il y a une nouvelle technique qui émerge. Alors, à quoi ça va servir? Ah ben, ça va servir les handicapés, les machins, les... Voilà. Et on décline à chaque fois ça, et je veux dire, c'est presque prédictif. Je ne sais pas ce qui va arriver après l'intelligence artificielle. Là, on a le cadre des cadres, presque un méga-cadre ou un méta-cadre englobant. Mais ça sera intéressant pour apprendre la grille, on verra que ça servira exactement pour résoudre potentiellement... ça se présentera comme la baguette magique qui va résoudre les mêmes problèmes. Donc ça ne bouge pas. Donc on a à la fois un présentisme, ça c'est ce que dit François Hartog, aujourd'hui, une espèce de présent perpétuel, comme ça, là aussi un bégaiement ou un retour cyclique sur une espèce de présent dont on n'arrive pas à sortir. Et en même temps, on a cette perspective, entre guillemets, historique, en tout cas sur un temps quand même long, un demi-siècle, qui fait que intellectuellement, ça ne bouge pas de place. Donc il y aurait aussi une sorte de présentisme en pointillé, une sorte de présentisme un peu camouflé, parce qu'il y a une multiplicité de discours à chaque fois. Mais quand on les analyse, ces discours ne disent rien de nouveau, fondamentalement. Et donc il y a quand même quelque chose qui pose des questions sur notre société, qui pressent être une société à travers ces médias, par la multiplicité de livres, de discours sur Internet, etc., qui prétend se penser, qui prétend... améliorer cette pensée qui est en même temps et constamment dans une sorte de bégaiement. Ça bouge pas de place. On le voit dans le numérique. Moi, j'ai pas étudié la chose de manière profonde par rapport à l'écologie. Mais là, j'ai vu qu'on avait ressorti la traduction française du rapport Meadows de 72, je crois. Et tu te rends compte quand même que moi, quand j'étais adolescent, les années 70, étudiant, début des années 80, bah, la question politique de l'écologie a été fondamentale, elle était très présente. Il y avait du monde qui se présentait aux élections présidentielles, il y avait du monde qui publiait des articles, des livres, il y en a tant d'autres qui publiaient des articles et des livres. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on redécouvre l'eau chaude, passez-moi l'expression, mais c'est ça, en matière d'écologie. Comme si, enfin, je ne dirais pas que tout avait déjà été dit, mais énormément de choses avaient été dites quand même dès les années 70 sur le rapport entre l'évolution du climat, déjà, la croissance économique et les technologies. Bon, eh bien, c'est exactement le triptyque autour duquel on tourne aujourd'hui. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une multiplicité d'articles, de rapports, de livres qui, d'un seul coup, découvrent une espèce de nouvelle frontière intellectuelle. Bon, voilà, je dois commencer à vieillir, c'est le cas, de toute manière. Et ce qui fait que, par rapport à un champ intellectuel que je fréquente depuis 40 ans maintenant, il y a des choses, je me dis, mais non, c'est pas nouveau du tout. Voilà. Et donc, ça pose quand même au-delà du numérique, au-delà de l'écologie, la question de la capacité de nos sociétés à se réfléchir vraiment à travers de nouvelles problématiques, de nouvelles manières de se penser. Voilà.
Alors, cette question, là, tu l'abordes dans les 30, 40, 50 dernières années, mais en réalité, on est sur une temporalité beaucoup plus longue dans ce livre. Tu commences à un moment de révolution industrielle, révolution également française et plus largement, du coup, un renouveau politique, intellectuel. Et dans les chapitres, donc, tu regardes thématiquement les groupes, les zones que tu vois comme étant affectées par la transformation technologique de l'information, en particulier de la communication, c'est-à-dire donc les questions de nombre, de chiffres, de démographie, mais également plus largement, la question de l'espace, le déplacement de l'espace, la vitesse à laquelle l'information se déplace, donc c'est une question aussi de temps et de mouvement. À travers tout ça, tu as un regard extrêmement critique, en fin de compte, sur l'emploi qui est fait de tout cela. Tu vois presque comme si c'était un dévoiement de la pureté de ce qui pourrait être la communication de l'information. Et ça se lit parfois comme une vision très pessimiste, voire presque à charge, en fait.
Alors, ça peut être lu comme ça, mais je ne pense pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas écrit dans cet état d'esprit, en tout cas. C'est-à-dire que oui, il y a une dimension critique dans le sens où je vise à pointer quand même un certain nombre d'enjeux, qui sont des enjeux politiques au sens large, sur l'évolution de ces technologies d'information et de la communication. Et au fond, à quoi ça sert dans notre société? Comment on s'en sert dans notre société? Et je pense qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus. Il faut qu'on s'interroge parce que si on prétend construire, comme on fait depuis la Révolution française, une démocratie, une société démocratique, c'est une société qui ne prétend pas, en fait, au fond, arriver à obtenir un modèle d'elle-même, par exemple, à partir d'un modèle extérieur qui serait celui d'une transcendance. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel... sur un mode très particulier, hein, je crois que c'est tout à la fois la richesse et la difficulté de la démocratie, on va chercher à se penser soi-même. La démocratie, c'est le régime politique qui nécessairement doit travailler à se penser lui-même. Et pour se penser lui-même, je veux dire, il va utiliser des outils, il va utiliser la presse, il va utiliser le Parlement, etc. Mais c'est ça l'essentiel, et même le travail intellectuel en sciences sociales, pour moi, ça participe de cette nécessité pour une démocratie de se construire en se pensant elle-même. Ça, c'est un travail qui est un travail difficile, de longue haleine, qui est complexe et qui nécessite justement qu'on pointe les enjeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, puisqu'on construit une démocratie? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble comme société? Et comment les technologies participent à la construction de cette société? Il y a des choses qui nous échappent beaucoup, voire totalement. Et la montée en puissance de ces technologies, elle se fait en nous échappant très largement. Et aujourd'hui, ce que font les GAFAM à travers ces technologies, bah, ce sont des choses, des logiques qui sont à la fois des logiques économiques, des logiques parfois gestionnaires dans leur application, des logiques de facto politiques qui ont un impact considérable sur nos vies, mais sur lesquelles on n'a pas, de prise, ou très peu. Donc si on n'y réfléchit pas, on ne se posera jamais la question de savoir comment on peut essayer de récupérer ne serait-ce qu'un peu de maîtrise par rapport au développement de ces technologies dans notre société.
Quoi. Parce que ton vocabulaire et tes expressions sont quand même réellement dans cette idée du contrôle. Tu parles d'asservissement, tu parles également donc, d'un control revolution permanent qui serait une façon de contrôler le data que tu trouves souvent inutile.
Oui. Alors, ce qui est le plus compliqué, c'est que à la base, le petit modèle que j'essaie de construire, il repose sur un livre d'un auteur américain, James Penninger, qui développe la thèse de ce qu'il appelle la Control Revolution, justement. Et cette révolution du contrôle, il faut l'entendre comme une révolution de la régulation, en fait. Hein. Tu es bien placé pour savoir quand même que le mot contrôle en anglais, c'est pas la même chose qu'en français. C'est-à-dire que, alors, sur cette base-là, justement, j'ai essayé de sortir de la notion de contrôle très contrôlante telle qu'elle existe, enfin, telle qu'est connotée le mot contrôle en français. Et m'appuyer plus sur cette question du control et de la control revolution, qui est une révolution de la régulation, entre régulation et contrôle. Et toute la question, justement, elle est là. C'est jusqu'à quel point on est dans la régulation, jusqu'à quel point on bascule vers le contrôle, comment on glisse de la régulation au contrôle. Et c'était ça qui était intéressant. Parce que quand on lit Benninger, son livre, tel qu'il le présente, il développe une thèse qui s'appuie essentiellement sur, au fond, une vision économico-gestionnaire des technologies d'information et de la communication. Ça, c'est passionnant. Et son livre est passionnant. C'est un grand livre qui a été... véritablement reconnu à l'échelle mondiale et malheureusement pas traduit en français. On peut se poser la question quand même. Maintenant, quand on lit son livre aussi et que justement on a une culture française, ce qui frappe, c'est qu'il y a au fond très peu d'intérêt qui est porté à la question politique et aux enjeux politiques. Il y a des choses qui, à travers des logiques gestionnaires, mènent jusqu'aux politiques, mais ce n'est pas une vision politique du développement des technologies d'information et de communication. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est reprendre son schéma et puis de le, en guillemets, compléter, dont je le présente au départ, de le compléter par une approche qui intègre la question politique et des enjeux politiques. Et des enjeux politiques à l'échelle très locale, ça va de l'organisation à l'échelle mondiale, parce que ces technologies, elles se développent de l'échelle de l'organisation à l'échelle mondiale. Le développement des réseaux de câbles par les Britanniques au XIXe siècle, dans le cadre de leur empire, c'est une échelle mondiale, c'est une première forme de mondialisation, ça peut être vu comme ça en tout cas. Maintenant, toujours chez toi en Angleterre, le développement du chemin de fer dans le cadre de l'explosion de la révolution industrielle et le développement sur les emprises de chemin de fer du télégraphe, c'est très local. D'accord ? En même temps, l'Angleterre, c'est le bon exemple, puisqu'on va du local au global, du global au local. Et ça passe aussi parce que un auteur anglais qui est Daniel Hedrick appelle les Tools of Empire. Donc voilà, on a des outils de construction de l'Empire. Ce n'est pas les seuls, mais c'est bien la construction d'une logique impériale. Alors, qui dit impérial, dit aussi impérialisme. On peut rester froid face à ça. Peut-être que les historiens ont cette capacité à introduire une telle distance. On peut se poser plein de questions sur la régulation de la politique mondiale. Et la régulation de la politique mondiale, c'est aussi un contrôle de la politique mondiale par ces technologies d'information et de la communication. Donc voilà, je pense que c'est peut-être justement ton origine britannique qui fait que quand tu me lis, tu accentues cette dimension du contrôle, alors que j'avais essayé de faire quelque chose de plus pondéré et qui est beaucoup plus entre la régulation et le contrôle. Même si effectivement c'est quand même critique, parce que quand on insiste un peu sur la dimension critique, ça hérisse le poil, ça interpelle, et puis ça peut donner lieu à discussion. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça la démocratie aussi. Une démocratie où on ne discute pas, c'est plus une démocratie. Le travail intellectuel, c'est fait pour discuter, à mon sens.
Certes, mais à t'entendre, je ne comprends pas pourquoi tu essayes autant de refuser l'appellation d'œuvre historique, puisqu'en fait, c'est une analyse historique. C'est aussi mal que ça d'être un historien ?
Ah, pas du tout. Au contraire, c'est juste. Alors là, c'est marrant ton contre-pied, parce que c'était pour éviter de me faire taper sur les doigts par les historiens en disant, mais cher monsieur, vous n'êtes pas historien, vous prétendez faire de l'histoire. Non. Alors je dis, je ne suis pas historien, donc j'adopte ce que j'appelle une perspective historique de modélisation, mais je ne prétends pas faire l'historien. Voilà. Maintenant, j'ai lu énormément d'historiens, bien évidemment, entre guillemets de vrais historiens, je veux dire, qui ont vraiment travaillé sur des archives, etc., qui ont fait aussi des synthèses, qui sont des anglo-saxons pour la plupart. Il y a quelques travaux français, il y en avait beaucoup plus à l'époque, il y a 25 ans qu'aujourd'hui, sur ces questions. Les historiens français ont un peu disparu du champ. Hein, il reste Valéry Schaeffer, Clavert aussi à Luxembourg, mais comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont plus en France. Il y a encore Mouni Kuhn qui est l'historien de l'informatique en France, l'historien historique de l'histoire de l'informatique en France. Mais sinon, Pascal Grisel, je crois qu'il est à la retraite, me semble-t-il. En tout cas, il ne publie plus de manière massive comme il le faisait sur ces questions. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait une continuité, quoi. Alors qu'il y a énormément de travaux en anglais qui sortent sur ces questions. Et ça n'a pas cessé. Et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas de documentation sur l'évolution de, sur l'histoire de ces technologies de l'information et de la communication. Moi, je pense, je suis venu aux sciences sociales à travers l'histoire. Et celui qui m'a fait découvrir la sociologie, c'est Fernand Braudel. C'est en lisant Braudel que j'ai appris qu'il y avait des gens comme Zumbart ou comme Weber, que je ne connaissais pas forcément avant. Donc, je dois beaucoup aux historiens des années 70-80, qui étaient très ouverts sur les sciences sociales. Et il y avait un dialogue entre les sciences sociales, les sciences politiques notamment, parce que moi, je viens des sciences politiques et l'histoire. Maintenant, oui, j'ai suivi pas mal de cours d'histoire et ma bibliothèque est composée quand même pour peut-être plus d'un tiers de livres d'histoire, bien évidemment. Que ce soit l'histoire de l'État, l'histoire de l'économie, de la société française, etc., la géopolitique, beaucoup, géopolitique historique, avec pas mal d'anglo-saxons aussi. Ouais, c'est indispensable, si on veut s'aérer un peu les neurones, me semble-t-il.
Alors,
c'était de la modestie par rapport à l'histoire.
Ouais.
C'était surtout pas... c'est très bien d'être historien. Si l'histoire avait plus accepté des postures théoriques, je serais volontiers devenu historien. Mais il fallait... parce que moi, ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'était d'essayer, à ma petite échelle, de faire une proposition de modélisation de l'histoire. C'est très prétentieux, bien évidemment. Ce n'est pas une philosophie de l'histoire, à la Raymond Aron, bien évidemment, mais non plus. Mais quand même, moi, quand j'ai lu Braudel, ce qui m'a fasciné véritablement, c'est qu'on a un historien, quand même resté assez solitaire, qui ait osé proposer une modélisation de l'histoire économique sur le long terme. Voilà. Mais il l'avait fait déjà à sa manière quand il avait fait sa thèse sur la Méditerranée. C'est des attitudes intellectuelles au-delà de l'histoire qui, moi, me plaisent, m'intéressent.
Alors, rebondissons du coup sur Brodel pour souligner une autre chose, c'est que beaucoup de ton analyse, si on regarde sur quand même sur deux siècles, et se concentre quand même sur le temps court, hein, la fameuse mondialisation en trois temps de l'histoire, le temps long en fin de compte, et ce qu'on peut appeler tout ce qui est l'information, la technologie de l'information et de la communication longue, lente, hein, ça peut être des choses qui sont restées et qui ne sont pas forcément des nouveautés. En fait, tu les mets un peu de côté. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le rôle des livres, des journaux, une fois qu'il y a de nouvelles technologies, tu les mets un peu de côté. Et d'ailleurs, ça te met à ne pas parler, enfin, ça t'encourage à ne pas parler des bibliothèques, par exemple.
Oui, alors je ne parle pas des médias. Et des médias au sens large. Donc je ne parle pas non plus du livre, je parle très peu de la presse. C'est un choix. C'est un choix parce qu'il y avait déjà pas mal de livres à l'époque qui parlaient très bien de ces questions-là. Donc c'était pas la peine que, à mon sens, que je amène un grain de sable sur ces questions. Et ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser beaucoup plus sur l'économie et le rapport entre l'économie et la gestion, et le politique et son rapport à la gestion. Parce que moi, je suis en sciences de l'information et de la communication, mais là où il y a parfois des petites tensions avec mes collègues, c'est que moi, je pense que les technologies d'information et de la communication sont des technologies de gestion. Et il faut les penser comme des technologies de gestion, que ça plaise ou pas, ça c'est autre chose. Et il faut comprendre, en fait, ce qu'elles font à la gestion et ce qu'elles et la gestion font à la société, et notamment au développement de cette démocratie dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que les penser justement en termes de gestion, c'est bien plus intéressant que les penser en termes d'information-communication. Bien sûr, c'est les technologies d'information et de la communication, mais au service de quelque chose d'autre, qui est le développement de logiques gestionnaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de ces logiques gestionnaires qui ne sont pas prisonnières, j'allais dire, de l'organisation de l'entreprise, mais qui, grâce à ces vecteurs-là, vont se déployer dans l'ensemble de la société et à une échelle qui est une échelle qui devient tendanciellement mondiale. Et en fait, on s'aperçoit bien que ces technologies, elles gouvernent de plus en plus aussi bien notre vie. On est sur, combien de fois est-on sur le téléphone portable dans une journée? C'est invraisemblable, d'accord? Et donc ça va de notre vie très quotidienne, très domestique, notre vie personnelle, jusqu'à la gouvernance mondiale. Qui ne dépend pas que de ces technologies. Mais on s'aperçoit que faire la guerre aujourd'hui, ça passe aussi par ces technologies. Et après tout, la première chose que les Russes ont fait avant même d'envahir pratiquement l'Ukraine, c'est d'essayer de créer une sorte de blast informationnel pour que les capacités de gestion informationnelle de l'Ukraine tombent à zéro et faciliter l'envahissement de l'Ukraine. C'est assez bien documenté, ce genre de questions. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait par hasard. Et ils ont tout à fait conscience que cette dimension-là, elle est absolument fondamentale. Mais moi, je voulais me focaliser là-dessus. Donc, me focalisant là-dessus, je suis focalisé sur les télécommunications, sur l'informatique et les premiers balbutiements d'Internet. Donc, j'ai laissé tomber de côté tout ce qui relevait du médiatique.
Alors, comme dernière question avant d'ouvrir au public, une question plus légère, c'est tome 1. Tome 2 ?
Il y aura un tome 2, oui, sur lequel je travaille.
Qui sera, du coup, sur les 25 dernières années ?
Non, pas du tout, ou pas forcément. Alors, ce sera aussi une reprise d'un certain nombre de mes travaux, mais je vais les actualiser cette fois. Donc, c'est pour ça qu'il me faut un peu de temps. Si tout va bien, ça devrait sortir fin 2024. En tout cas, le contrat est signé avec les éditions EAC, donc il va falloir que je le fasse. Mais comme ça pousse aussi. Maintenant, l'idée, c'est de réfléchir. J'ai fait un certain nombre d'articles autour des hommes aussi. Donc, il y a une partie sur les hommes, et rapporte les hommes, la technique, l'histoire, et des gens comme Douglas Engelbart, Lickleder et d'autres. C'est déjà intéressant, il y a plein de choses aussi qui ont été écrites sur eux, c'est leur vie, leur rapport au développement de ces technologies, l'information et les communications est très bien documentée. Voilà, moi, j'ai publié un certain nombre de choses là-dessus, j'ai envie de les regrouper. Il y a aussi des travaux sur la question de la logistique, parce que ce qui sous-tend ce livre-là, qui est déjà le premier tome, c'est la question de la logistique. Moi, je pense que c'est une question fondamentale dans notre société. On a bien vu avec le Covid, ou la Covid, je veux dire, quand la logistique s'arrête, tout s'arrête. Voilà. Alors, on peut poser plein de questions autour de ça, mais là aussi, il faut peut-être avoir un regard à la fois intéressé et critique. Moi, j'ai toujours les deux. Ça a essayé de comprendre, mais de comprendre en ayant un regard un peu critique. Donc on est totalement vulnérable et dépendant de cette logistique à la fois de transport physique et puis de toute la logistique de transport informationnel. Et avec la Covid, on a bien vu cette espèce d'effondrement global de la logistique de transport physique et puis cette idée qu'on va, au fond, pouvoir prolonger la possibilité du relationnel et du relationnel économique aussi à travers la logistique informationnelle. Et Amazon a cru que la capitalisation de boursière d'Amazon s'est envolée ces 3-4 dernières années. Alors que là, maintenant, ça se tasse pour tous les GAFAM. Mais il n'empêche que quand on regarde les courbes, c'est extraordinaire. En 5 ans, ça a été une explosion totale. Donc, il se passe quelque chose là qui est autour de la logistique, qui est un des facteurs clés à comprendre pour comprendre l'évolution de notre société depuis deux siècles. Et ce que je fais là, c'est essayer de réfléchir à ça, et ça sera le cas aussi dans le deuxième tome. Donc plus insister sur la logistique et puis sur les questions de régulation.
Et deuxième tome ou second tome?
Sans ce jeu hélico-politique. Non, ce sera le... Oui, le deuxième sera le second, le dernier. Il y aura un autre livre, mais qui portera sur... ce sera une anthropologie cognitive du numérique. Donc ça, c'est autre chose. C'est pour plus tard.
Merci beaucoup. On va donc pouvoir ouvrir aux questions de tout le monde.